Bonjour et bienvenue sur Radio Appel. Je suis actuellement en ligne avec Sylvain, l'un des membres du groupe King Biscuit, que vous verrez se produire sur scène à la Luciole jeudi 5 mars 2020. Bonjour Sylvain et comment allez-vous ?
Bonjour, et ça va très bien.
Alors est-ce que vous êtes chaud pour le concert ?
Ouais, on commence demain à Caen et on enchaînera à la Luciole, donc je pense d'avoir joué la veille, on sera bien chaud.
Oui. Vous avez déjà joué à Caen ou vous allez jouer ?
On joue demain à Caen.
Demain,
et
d'accord.
Et après on joue jeudi à la Luciole, ouais.
Et comment vous le sentez sinon ?
On a déjà joué il y a 2 ans dans les mêmes circonstances en after work à la Luciole. C'était un super concert, super ambiance, super accueil. Donc comme je regarde un très bon souvenir, je me dis que ce sera sans doute, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Donc je suis bien content.
Donc les allants sont nés et vous ont assez motivé.
Ouais, on a eu un bel accueil, ouais.
Alors maintenant, je pense qu'on va partir sur la formation du groupe. D'abord, d'où venez-vous ?
J'habite à Rouen. Là, j'étais parisien, mais ça fait plus de 10 ans que j'habite à Rouen. En Normandie.
Je vois que vous n'êtes pas seul dans le groupe, car vous êtes 3 membres, c'est ça ?
Ouais. Alors, il y a Joanne Didou qui a rejoint le groupe il y a maintenant 3-4 ans, quelque chose comme ça. Qui a fait... Là, il est maintenant à la batterie, mais à un moment, il faisait aussi des claviers. Enfin, voilà, il a pas mal bougé, parce que le groupe a pas mal bougé. Mais là, sur ce disque-là, et surtout la tournée qu'on fait depuis le mois dernier, il est à la batterie et au chœur. Et on a aussi Annie Langlois, qui nous a rejoint pour la tournée, qui fait les claviers et qui est aussi au chœur.
Depuis combien de temps que vous connaissez maintenant ?
Le tout début, c'était 2014, si je ne me trompe pas. Donc ça doit faire 6 ans, quoi, 6-7 ans. Ouais.
Et vous vous êtes rencontrés comment ? Comment il s'est formé ?
Alors, au tout début, c'était un duo avec un musicien qui s'appelle Fred Joannet, qui est plus dans le groupe depuis l'album précédent. Et c'était, on s'était rencontrés parce qu'on fait tous les deux partie du collectif dans lequel on est très impliqué à Rouen, collectif qui s'appelle les Vibrants Défricheurs. Et donc on se connaissait, on avait déjà joué ensemble. Et puis en fait, on nous avait invités sur un événement. Et en fait, nous, on avait posé un répertoire autour des musiques traditionnelles, des vieux blues. Les vieux blues du Mississippi sur lequel moi je tripais pas mal à l'époque à écouter, à les jouer, etc. Donc on s'était retrouvé là-dessus et comme ça nous a beaucoup plu, on a décidé de monter un groupe autour de ce répertoire. Depuis le groupe, il est passé de duo à trio et puis au fur et à mesure, on a écrit nos propres morceaux et puis voilà, là, c'est avec le dernier disque, on s'est quand même pas mal affranchi de ces musiques du Mississippi. Donc après voilà, le groupe a eu toute une évolution, mais à la base c'était ça.
Et est-ce que vous pouvez nous préciser quelle place occupez-vous au sein du groupe ?
Ah oui, alors moi je fais le chant lead, enfin le chant principal et la guitare.
Tout à l'heure vous m'avez dit que le groupe donc s'était agrandi. Et est-ce que vous pensez le réagrandir ? Est-ce que vous pensez intégrer des membres ?
Non, pour l'instant il y a pas de raison. Après je ne sais pas ce qu'il y adviendra, mais non, pour la formation trio elle maintient.
Alors est-ce que vous avez déjà fait des featuring ?
Pas vraiment. Après le dernier disque qu'on a fait, on allait l'enregistrer à Bristol avec un producteur anglais qui s'appelle John Parrish. Et sur ce disque, lui il joue quelques à différents endroits du disque. Des fois il fait un peu de batterie, des fois il fait des chœurs, il a joué aussi un peu de clavier. Enfin du coup c'est un espèce de featuring parce que du coup en plus des 3 musiciens qui est de King Biscuit, lui il a fait il a enregistré des instruments, mais après on n'a jamais fait de featuring sur scène.
Alors, comment vous l'avez rencontré, John Parrish, tiens ?
En fait, je connais des musiciens qui jouent avec lui. Et quand on a commencé à réfléchir à mettre en place pour enregistrer ce disque-là, du coup, on s'est dit qu'on aimerait bien un producteur, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Et puis, on a pensé à lui. Comme justement, moi, je connais ces musiciens qui le connaissent. Et du coup, on avait un lien direct, donc on a pu le contacter. Mmh. Et puis à partir de là, lui il a accepté et puis on s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses, de calendrier, de sous, de choses et d'autres. Et voilà, et ce qui fait qu'au mois de juin de l'année dernière, on est parti 2 semaines à Bristol pour enregistrer avec lui.
Parce que John Parrish, c'est quand même pas un simple artiste connu simplement de Normandie, on va dire. C'est une personne assez connue,
donc
pense que ça vous a donné un gros coup de pouce quand même, non ?
Oui, on cherchait justement quelqu'un qui entre guillemets soit un nom et du coup représente quelque chose pour les gens, mais qui surtout pour nous représentait énormément de choses, parce que c'est vrai que quitte à avoir un nom, autant que ce soit quelqu'un qui ait de l'importance. Et moi, il y a pas mal de disques qu'il a produits, des disques comme aussi de Sixteen Horsepower, d'Alto Sardine, de Pete Harvey, qui pour moi sont des vrais disques de chevet. Et du coup, il y avait un peu un côté rêve de gosse à aller en Angleterre enregistrer deux semaines avec lui, qui a effectivement pour moi beaucoup d'importance, quoi. Donc on se sent assez chanceux de cette rencontre et de cette collaboration.
Alors ma question, ça va être ça. Comptez-vous faire des featurings? Est-ce que vous en avez déjà fait ou est-ce que ça reste un projet?
Il y en aurait certainement, là comme ça j'aurais du mal à en citer, parce que c'est vrai que du coup le disque là il vient de sortir, on a pas mal de dates à venir, donc nous actuellement on se concentre vraiment sur le fait de de faire les meilleurs concerts qu'on puisse faire et de pouvoir défendre ce disque là, donc c'est vrai que pour l'instant on n'est pas trop à réfléchir, tiens, est-ce qu'on pourrait inviter quelqu'un? Si l'occasion se présente, on en serait très content, mais c'est vrai que là, on est vraiment focalisé sur le fait de jouer le répertoire du disque et de le jouer le mieux possible.
Et est-ce que vous avez déjà fait des concerts à l'étranger, par exemple?
Ça nous est déjà arrivé, pas beaucoup, mais on a joué deux fois à Rotterdam, dans un festival, un chouette festival qui est sur Rotterdam. On a joué un peu, on a fait quelques dates en Belgique. Et puis sinon dans toutes les dates qu'on a fait c'est vraiment en France.
D'accord, donc à ce que je vois vous avez pas mal voyagé à travers l'Europe. Mais est-ce que vous envisagez des endroits comme la Chine, le Japon, les États-Unis par exemple?
Bah ouais, on aimerait bien. Bah en fait comme le projet il est anglophone, finalement ça s'adresse à plein d'autres gens que la France. Et du coup on aimerait bien effectivement tout ce qui est Hollande, Belgique, Allemagne. Pourquoi pas Angleterre? Après, Angleterre, avec le Brexit et tout ça, ça rend la chose assez compliquée. Mais je pense qu'au moins, c'est ça, tout le Benelux.
Ouais, de commencer
Belgique,
par
Allemagne,
les pays
Angleterre,
à côté.
Les pays nordiques, je pense qu'il y a vraiment... c'est vraiment un endroit où cette musique intéresse les gens.
Au niveau des musiques ou des albums, de l'instrumentation, est-ce qu'on peut vous comparer à un autre groupe du même style que vous? D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel style de musique vous avez? Ça peut être intéressant.
Comme je vous disais tout à l'heure, au tout début du groupe, on était vraiment proche des vieux blues du Mississippi. Après, là, on en est à notre troisième album, un troisième disque. Le premier, c'était un EP. Et donc, du coup, le groupe a quand même pas mal évolué. Nous, les deux petits mots qu'on a trouvés là pour parler de la musique actuellement, on l'a mis en anglais, on a mis Hypnotic Songs. Donc vraiment pour signifier que hypnotique, c'est qu'il y a toujours quand même une idée de transe comme dans les vieux blues de choses comme ça qui tournent et puis en même temps c'est quand même format chanson, on s'est quand même un peu plus rapproché de choses plutôt pop rock, même si c'est des grands fourre-tout. Donc du coup c'est des chansons mais qui ont toujours des influences de choses un peu blues, de choses un peu trance et avec une énergie rock. Bon, le mieux à mon avis c'est soit d'écouter soit d'aller voir en live, parce que c'est vrai que tout ça c'est pas...
Oh, c'est mieux d'aller l'écouter,
compliqué
d'aller
voir en live. À dénommer vraiment ce que font les gens.
Et donc j'ai pu voir aussi que vous étiez un grand diplômé de musique, est-ce que j'ai raison ou je me trompe?
Diplômé de musique?
Oui.
Ça fait longtemps, mais oui,
vous avez fait vos études là-dedans?
Après le bac j'ai fait de la musicologie à la Sorbonne. Mais j'ai pas eu de diplôme là-bas, je suis directement après rentré à l'American School of Modern Music, qui est une école de jazz sur Paris, que j'ai faite effectivement les 5 ans, et puis après j'ai passé un diplôme de musique actuelle effectivement au conservatoire. Donc j'ai passé du temps dans les écoles, mais après je pense qu'il m'a surtout le plus apporté, c'est les rencontres que j'ai fait avec des musiciens, notamment tous les gens du collectif des Vibrants Défricheurs à Rouen, dans lequel je suis impliqué et qui notamment a fait que je suis parti de Paris pour m'installer à Rouen. Et je dirais que c'est surtout finalement l'humain et les gens qui m'ont le plus apporté que les études, même si les études c'était important.
C'est plus la théorie, les études.
Je
ne
regrette pas de l'avoir fait.
Et est-ce que vous êtes toujours en contact ou vous faites toujours partie du collectif?
Ah oui, complètement. Oui. Là, actuellement, je suis dans les bureaux du collectif.
Vous avez le temps de rester dans les bureaux et bouger un petit peu partout? Vous arrivez à accumuler
J'arrive pas à donner le même temps tout le temps, parce que là, par exemple, en ce moment, effectivement, je suis beaucoup sur la route. Mais donc, il y a des moments où je peux un peu plus me consacrer au collectif, des moments où je le suis moins. Mais après, l'avantage d'un collectif, c'est qu'on est quand même une petite vingtaine. Donc, c'est pas tout le temps les mêmes qui sont impliqués et de la même façon. Donc, comme ça, on peut tourner. Mais effectivement, pour moi, c'est un point d'ancrage hyper important et un soutien à plein de niveaux. Pour moi, c'est vraiment très, très important d'y être et puis de pouvoir être là pour le collectif.
Et donc, à part le collectif et le groupe, est-ce que vous avez une vie professionnelle à côté ou la musique, c'est vraiment votre métier?
Ah, je fais que ça, ouais. Je fais que de la musique, ouais. Ouais. Après, j'ai d'autres projets que King Biscuit, même si là, cette année, avec le disque qui sort, King Biscuit va me prendre beaucoup de temps. Mm-hmm. Mais on a un autre projet qui est dans le collectif qui s'appelle Pierre Feuilloux, qui est un spectacle plutôt jeune public, mais qui joue un peu partout. Là, on revient de jouer 2 jours à la Dynamo à Pantin, à côté de Paris. Ça me prend pas mal de temps. Avec le collectif, des fois, on a aussi d'autres groupes, avec le Gros Bal, qui est plutôt un gros orchestre où on fait danser les gens, le Karaoké, qu'on joue de temps en temps. Et puis, j'ai aussi d'autres groupes dans lesquels je joue. En fait, j'ai pas mal de projets, et des fois, il y en a certains qui prennent beaucoup de place, d'autres moins. Enfin, voilà, du coup, ça dépend. Mais effectivement, du coup, je fais que de la musique, et je gagne ma vie en faisant de la scène, en faisant des concerts.
Au niveau du plan organisationnel, financier, productif d'ailleurs, est-ce que c'est le groupe qui gère tout ou soit vous avez toute une équipe montée qui réalise les projets, des concerts, des festivals, qui prend en charge la communication, la partie publicité?
Alors non, je suis pas seul à tout gérer parce que ce serait pas du tout possible. Au niveau de la production du groupe, en fait, il y a justement les vibrants des Fricheurs dont je vous parlais. Mm-hmm. Où côté administratif, c'est hyper utile et ultra nécessaire pour justement monter des dossiers de subvention, faire les contrats, tous les suivis de budget, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes. On bosse aussi avec un tourneur qui s'appelle Use, qui du coup nous trouve les concerts. Mm-hmm. Là, pour le disque, on travaille aussi avec un attaché de presse. On a aussi une community manager qui gère tous les réseaux sociaux. Et puis, est-ce que j'oublie des gens? Je sais pas. Mais en tout cas, non, on a toute une équipe. Et puis si, on a le label. Alors, le label Vibrant, qui est le label du collectif, est un petit peu impliqué, mais c'est surtout le label de Johan Guidou, qui est un des musiciens, qui a une grande part de production dans le disque. Donc, son label, c'est Johan Records. Et lui, du coup, il a énormément travaillé justement pour produire le disque. On a aussi le distributeur qui s'appelle L'Autre Distribution, qui distribue le disque dans les Fnac, les Leclerc, un peu partout. Voilà. Donc en fait, non, c'est toute une équipe de gens et de petites boîtes, de sociétés qui font que le projet il peut vivre et que le disque existe. Ça, c'est ultra nécessaire.
C'est clair, on ne peut pas faire les choses tout seul. Et maintenant, je voudrais qu'on revienne...
On peut le faire, mais pas à cette échelle-là, en tout cas.
Alors là, maintenant, je voudrais qu'on revienne sur les compositions, du coup. Comment vous faites pour vous démarquer des autres? Une petite marque de fabrique qui fait que c'est vous?
Ouais. Après, quand j'écris les morceaux, je me dis pas, tiens, je vais écrire un truc en me démarquant des autres. Mm-hmm. Je pense que chacun, on a plein d'influences. Et puis d'ailleurs, les influences, elles bougent. Ce qui fait que d'ailleurs, les morceaux qu'on joue au début des groupes sont assez différents que ceux qu'on joue maintenant. Donc après, en général, c'est ce qui se passe, c'est que moi, j'écris la base des morceaux. Là, pour ce disque-là, je les ai écrits chez moi, en les enregistrant avec mon téléphone, voix-guitare. Après, je les ai envoyés à Johan pour avoir un peu son retour, son ressenti. On a avancé un peu là-dessus. Et après, on s'est retrouvé avec Tatiana, qui a enregistré le disque avec nous et qui a bossé aussi en amont, qui était la batteuse à l'époque. Et en fait, on a bossé tous les trois en studio pour monter les morceaux. Et donc là, certains morceaux que j'ai écrits ont énormément bougé parce qu'ils m'ont apporté leur regard. Donc du coup, on a changé pas mal de choses. Certains ont très peu bougé. Et puis, une fois qu'on était content de ces morceaux-là, on s'est retrouvé justement en studio avec John Parrish à Bristol. Et là, encore, les morceaux ont été moulinés. Et donc, certains, par rapport à ce qu'on avait travaillé nous et proposé, sont restés assez fidèles et d'autres ont beaucoup bougé. Donc en fait, c'est une succession comme ça de passes différentes d'avis, de ressentis, de tester des choses. Et donc on joue à peu près le résultat de ce qui est sur le disque, mais encore maintenant en live, il y a des choses qui sont amenées à bouger. C'est en fait.
Vous avez un esprit
vivant.
De collaboration, quoi.
Ouais.
Et combien de temps ça vous prend à peu près?
C'est un peu.
Histoire qu'on se fasse une petite idée.
Des fois ça va vite, mais là, par exemple, tous les morceaux, il y a des choses que j'avais écrites un peu avant, que j'avais gardées de côté, mais on va dire que tout s'est fait l'été 2000. Je sais pas si c'était l'été là, mais celui d'avant. Mm-hmm. Après, entre septembre et avril, nous, on s'est vu 2 à 3 jours par mois pour bosser justement sur tous ces morceaux-là. Puis après, on a passé 2 semaines en studio à enregistrer les morceaux. Et puis après, on a un peu retravaillé. Puis on a fait une résidence de 4 jours au mois de janvier pour justement préparer la scène. Donc en fait tout ça s'est étalé sur un temps qui est assez long, mais en fait en faisant les choses, en se voyant régulièrement et en travaillant de façon un peu intense, voilà, du coup on arrive à avancer.
Alors, et au niveau des inspirations, est-ce que c'est les autres groupes qui vous inspirent, qui vous influencent? Est-ce que c'est vos propres expériences professionnelles ou personnelles? D'où ça vient? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Bah, je pense que c'est, ouais, c'est multiple. Effectivement, les groupes, moi je sais qu'il y a des groupes qui m'ont beaucoup influencé. Bah, justement, 60 Horsepower, qui est un groupe qui est imposé avec John Parrish, mais aussi Timber Timbre, qui est un groupe canadien que j'ai énormément écouté. Aldous Harding, qui est une chanteuse néo-zélandaise, qui a aussi enregistré avec John Paris. Voilà, mais des fois ça peut être des musiques traditionnelles, ça peut être plein de choses. Et puis après, ce qui est rigolo, c'est que quand on écrit des morceaux, des fois les influences, elles sont assez claires, et puis des fois elles ne le sont pas du tout. Des fois on fait des morceaux, et puis il y a des gens qui, quand ils écoutent, ils nous disent « Ah, mais ça me fait vraiment penser à tel truc. » Et des fois c'est même une chose que nous on ne connaît pas, ou c'est une chose qu'on connaît, mais vraiment on n'y avait pas du tout pensé à ce moment-là. C'est assez rigolo comment les choses en fait peuvent se mélanger, quoi.
Donc en fait, c'est qui s'y met,
ouais, voilà, c'est un peu un pot pourri de plein de choses.
Donc vous avez sorti l'album Amérite, sorti le 28 février, dans la continuité de l'EP Shake Shake Shake, sorti en 2015, et suivi de Well 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 en 2017. Quelle est la petite différence entre tous ces albums et comment ont-ils évolué?
Le premier EP qu'on a fait, il y avait quelques compos, mais il y avait aussi des reprises, donc justement de ces musiques du Mississippi, des choses qui avaient été enregistrées par Alan Lomax à l'époque, qui était un ethnomusicologue américain qui a enregistré énormément de musiciens sur le terrain et puis même fait découvrir des musiciens qui ont été très célèbres derrière. Donc on était vraiment dans cette veine en hommage, entre guillemets, à cette musique-là. Sur l'album qu'on a fait, Well Well Well, il y avait encore cette partie hommage, mais on s'en est quand même un peu éloigné, mais le Mississippi était quand même très présent. Et en fait, sur le dernier, on s'est pas du tout posé ces questions-là, et puis en fait, l'instrumentation a beaucoup bougé, on est passé de 2 à 3, on était quand même dans des musiques beaucoup plus modernes. Donc on va dire que les deux premiers albums sont quand même vraiment teintés de cette musique avec l'influence du blues, et que la dernière, il y a quand même un virage un peu plus important. On est quand même un peu plus dans la Tamise londonienne que le Mississippi. Voilà, mais après, ce qui est assez marrant, c'est que tous ces morceaux qui sont sur le dernier disque, pour certains, si je les joue guitare-voix, on va sentir un peu cette patte de vieux blues, mais en même temps, comme on a rajouté des claviers, on a rajouté des chœurs, il y a de la batterie, tous ces trucs-là, bah, au bout d'un moment, ça paraît un peu lointain, mais il y a toujours cette influence.
Là, tout ce que je vois, les albums, l'EP, tout est en anglais. Pourquoi en anglais?
Parce que moi, j'ai écouté énormément de musique anglophone, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand il y avait envie de reprendre ces musiques et d'en écrire nous-mêmes... L'anglais était d'une évidence, il n'y avait pas à se poser de questions, c'est quand même une langue, c'est beaucoup plus simple de faire des musiques énergiques, des musiques teintées de rock en chantant en anglais, qui est une langue qui vraiment transpire de cette musique-là, quoi. Ça lui va très très bien. En français, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué d'être un bachot ou d'autres gens comme ça qui ont réussi à faire des choses plus rock. En tout cas, moi, l'anglais, c'était évident.
Et donc, à part les concerts, donc à part les tournées, vous faites les gros festivals aussi? Ou est-ce que vous en avez déjà fait, d'ailleurs?
Ça arrive de temps en temps. Ouais, on en a fait de temps en temps. Dans le coin, on avait fait chauffer dans la Noirceur, qui est le festival en Normandie. Quand on allait jouer à Rotterdam, c'était aussi un festival. C'est vrai qu'en général, on a quand même plus une activité qui nous fait jouer toute l'année que surtout sur les festivals d'été. Peut-être que ça dépend des connexions qu'on a ou des réseaux, je sais pas. Mais oui, des festivals, on en joue régulièrement.
Et donc revenons sur le EP donc, qui est sorti en 2015, donc Shake Shake Shake. Pourquoi ce nom?
Il y a un morceau qui s'appelait Shake Shake Shake. Et c'est un peu comme le rock'n'roll, quoi. Il y a une idée de bouger, C'est très dans l'imaginaire, dans tous ces trucs qu'on retrouve dans le vieux blues. Donc comme on se mettait dans cette lignée, ça nous a plu d'appeler ça comme ça, Shake Shake Shake. Et puis le suivant, il y avait un morceau qui s'appelait Well Well. Et pour rester dans la même veine, on l'a appelé Well Well Well, qui est aussi un truc qu'on retrouve pas mal dans les musiques du Mississippi.
Simple et sans prise de tête.
Voilà.
Alors là, je voudrais qu'on revienne plus en détail donc, sur la production de l'album Amérite, sorti le 28 février. D'après ce que j'ai constaté et comme on a pu en parler tout à l'heure, avec John Parrish que vous avez rencontré à Bristol, c'est ça?
Oui, c'est lui qui a produit le disque, quoi.
Oui, et donc, est-ce que vous pouvez nous dire plus exactement qu'est-ce que ça apportait ? Qui c'est qui vous a proposé de le faire, justement ? Comment ça s'est passé ?
C'est nous qui l'avons contacté pour travailler avec lui, parce que lui, c'est un producteur. Il est musicien quand il joue avec Petit Harvey ou avec ses projets, mais lui, c'est un peu son job en général de produire des disques, donc ça, il en a vraiment l'habitude. Et c'est-à-dire que dans ces cas-là, on avait 2 semaines de studio avec lui, on lui apporte les morceaux, on lui joue les morceaux. Donc là, on a enregistré plein de choses. Et puis à partir de là, lui, en fait, il a quasi 50 ans d'expérience, a priori des goûts qui nous vont, parce qu'il y a plein de disques sur lesquels il a bossé que nous, on adore. Et donc du coup, selon les morceaux, il nous disait, je verrais bien rajouter un peu de batterie, là, rajouter ça, peut-être là, une petite ligne de clavier, ça, on va pas le garder, ça, on va le faire. En fait, à partir de là, lui, il met toutes les choses en ordre et il propose des choses. Pour essayer que justement par rapport aux morceaux qu'on a nous apportés, on les aboutisse complètement pour en faire un disque. Donc en fait, ce qu'il nous a apporté, c'est toute son expérience et son savoir-faire de réaliser un disque.
J'ai vu aussi un terme qui revenait, c'est mandobox.
Ouais. La mandobox, ouais. Alors, voilà. Du coup, elle est sur le disque, mais là, on la joue plus en live. Mais la mandobox, c'est en fait une mandoline, enfin un manche de mandoline qui a été greffé sur une boîte en fer. Et c'est un espèce d'instrument hybride qu'on a utilisé pendant pas mal de temps. Et au tout début, Fred Joannet, qui jouait avec moi, il avait aussi un violon, parce qu'il était violoniste, il avait plusieurs violons, il en avait un notamment fabriqué, pareil, dans une boîte en fer. Et donc, dans les musiques du Mississippi, on trouve beaucoup de lutheries sauvages qui sont justement des lutheries fabriquées où justement, c'est pas forcément des gens savants qui savent fabriquer des instruments, qui juste en fait ouvraient les placards, regardaient ce qu'ils avaient et fabriquaient leurs propres instruments. Et donc, du coup, pendant longtemps, on utilisait un peu des instruments comme ça, fabriqués. Alors du coup, la mandobox, on l'a plus, mais par exemple, la guitare sur laquelle je joue, moi, sur ce disque-là, et puis même en live, c'est une vieille guitare espagnole qui date de 1900, qui a été récupérée par un luthier que je connais très bien sur Rouen, et on l'a remis en état de marche ensemble, on a mis un micro, on a fait pas mal de choses dessus, et donc c'est pas exactement de la lutherie sauvage, mais il y a toujours cette idée d'utiliser des choses et puis un peu de les détourner pour leur donner un son un peu particulier, quoi.
Et au niveau de l'instrumentation, quels instruments pouvons-nous retrouver lors de vos concerts, notamment celui à la Luciole, et puis dans vos différents albums? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite liste?
Alors, à la Luciole, moi, je vais jouer de la guitare et il y a du chant. Annie, elle a 2 claviers et elle fait du chant aussi. Et Johan, il fait de la batterie et puis il a aussi un pad. Parce qu'en fait, il y avait des éléments du disque qui nous plaisaient vraiment, qu'on pouvait pas rejouer. Donc, en fait, il a ce qu'on appelle un pad. Il y a pas mal de batteurs actuellement qui ont ça. Ce qui lui permet, en fait, de quelque chose qu'il installe au-dessus de la batterie. Ça lui permet de déclencher des sons. Et donc on a pu prendre à plusieurs endroits des choses qui nous plaisaient du disque pour quand même les avoir sur scène avec nous. Donc voilà. Et donc en fait sur l'album on retrouve tout ça, mais comme on était en studio, on a pu rajouter d'autres choses. Donc il y a du piano acoustique, il y a des shakers, des bongos, des percussions comme ça. Il y a aussi un instrument qui s'appelle le variaphone, qui est un instrument que nous a ramené John Parrish, qui est un instrument qui doit avoir, je sais pas, 20 ou 30 exemplaires sur la planète, qui est un drôle d'instrument. Donc voilà, on retrouve, c'est l'avantage d'être en studio, c'est qu'on n'est pas obligé de se limiter aux instruments qu'on va jouer sur scène. On peut aussi se dire, tiens, si j'ai envie d'avoir un peu de piano ou un peu de shaker ou un peu d'autres choses, on va pouvoir les rajouter.
Est-ce que c'est possible que lors de vos prochaines productions, des créations d'albums, John Parrish vous donne un coup de main ou participe à cette construction?
Ouais, carrément. Si on a l'occasion, on en serait ravis. Là, pour l'instant, le disque qui vient de sortir et on va déjà jouer la musique de ce disque. Mais donc du coup, on n'avait pas forcément à réfléchir à la suite. C'est vrai que moi, si je pouvais enregistrer tous mes disques à Bristol avec John Parrish, j'en serais extrêmement heureux. Ouais.
Et quels sont vos projets, donc soit de prochains albums ou pour le groupe, juste pour l'année 2021?
Là, les projets, c'est vraiment plus sur la scène. Et comme on le disait tout à l'heure, justement, continuer à jouer en France, parce que ça, on le fait beaucoup, mais justement, s'ouvrir à l'étranger et aller jouer un peu ailleurs, ça nous plairait bien.
Lucas, absolument. Vous remerciez de m'avoir accordé du temps. Et puis, vous souhaitez bon courage sur scène.
Merci bien. Bonne journée.
Au revoir. Merci beaucoup.
Au revoir.